Merci d'écouter RFI. 3h30 en temps universel. Il est 4h30 ici à Paris.
Arthur Ponchelet.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Afrique Matin qui commence, 30 minutes pour faire le tour de l'actualité africaine de ce dimanche 2 mars. Et on commence avec le journal, à la une ce matin, ils ont franchi la frontière en chantant sous l'œil surpris des habitants en République démocratique du Congo. Des soldats ougandais sont entrés hier à Mahagi dans le nord de l'Ituri. Le porte-parole de l'armée congolaise sur place indique qu'un accord a été signé pour élargir la zone des opérations. RDC ou Action contre la faim alerte ce matin sur notre antenne. L'ONG est contrainte de mettre fin à certains de ses programmes humanitaires d'urgence. Conséquence des coupes dans le budget de l'USAID. Au sommaire également, on est au Soudan du Sud où les tensions entre l'armée et les forces alliées proches de Riek Machar ne retombent pas. Au Zimbabwe où l'arrestation d'un journaliste fait réagir. Il est en prison pour avoir donné la parole à une voix critique du régime. Et puis à Madagascar dont l'équipe nationale de foot ne jouera pas ses deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à domicile. Le stade Baréa d'Antananarive ne remplit toujours pas les critères d'homologation. Ils avaient été invités sur le sol congolais en 2021. Les soldats burundais participaient alors à Shuja, opération conjointe avec leurs homologues congolais pour neutraliser les ADF, un groupe de rebelles ougandais liés à l'État islamique. Il y a deux semaines, les militaires ougandais se sont déployés à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri dans l'est de la RDC. Et hier, Coralie Pierret, ils sont entrés à Mahagi, à 150 km au nord.
Une colonne de camions, de 4x4 et de véhicules armés de mitrailleuses. Ce samedi matin, des soldats ougandais franchissent le poste frontière de Mahagi, une localité au nord de la province de l'Ituri, en chantant sous l'œil surpris des habitants. L'objectif est de protéger la population. Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations, confirme le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, sans donner plus de détails. Les soldats ougandais vont-ils se battre? Et si oui, contre qui? À l'origine, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021 dans le cadre de l'opération conjointe Shuja pour neutraliser les ADF, un groupe de rebelles ougandais alliés à l'État islamique. Sauf que le territoire de Mahagi n'est pas dans la zone d'action des ADF, c'est plutôt celle en partie de la CODECO et des Zaïre, deux milices locales d'autodéfense communautaire. Il y a environ deux semaines, les Ougandais avaient déjà déployé des troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un renforcement en hommes qui coïncide avec l'expansion plus au sud du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. La frontière entre la RDC et l'Ouganda est notre zone d'influence. Rien n'y arrivera sans notre permission, a rappelé le chef d'état-major ougandais et fils du président Museveni sur son compte X personnel. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où hier, Ramazani Shadary était convoqué par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le numéro 2 du PPRD devait s'expliquer après les propos de son chef, Joseph Kabila. L'ancien président avait publié une tribune dans la presse sud-africaine, texte dans lequel il a vivement critiqué son successeur. Hier, à la sortie de cet entretien, Ramazani Shadary a dit avoir insisté, je cite, sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant et assurer être toujours respectueux de la Constitution. La République démocratique du Congo, concernée comme de nombreux autres pays du continent par les coupes drastiques de l'USAID, l'agence américaine de développement, moins 92% de budget, décision de Donald Trump qui a déjà des conséquences. Exemple ce matin, avec Action contre la faim, l'ONG est contrainte d'arrêter une cinquantaine de ses programmes dans une vingtaine de pays. Elodie Andreau est directrice des opérations à Action contre la faim.
Ce sont tous des programmes humanitaires d'urgence autour de la santé nutritionnelle, de la santé primaire des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, mais aussi des programmes liés à l'eau et à la sanitation et aussi en fait des programmes liés à la sécurité alimentaire. Par exemple, sur la RDC, en 2025, Action contre la faim, en collaboration avec le système de santé congolais, prévoyait de traiter 45 000 enfants sévèrement malnutris et d'apporter des soins de santé à 360 000 enfants. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on maintient le traitement des enfants sévèrement malnutris déjà admis dans nos structures jusqu'à fin avril. Par contre, nous sommes forcés, avec cet arrêt brutal, d'arrêter en fait les nouvelles admissions d'enfants malnutris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maman qui se présente à l'un de nos centres, en fait, avec son enfant de moins de 5 ans sévèrement malnutri, et la plupart du temps avec des complications médicales, nous ne pouvons plus le prendre en charge. Et il n'y a pas d'autre alternative, ce qui fait que cet enfant est en danger de mort.
Propos recueillis par Pierre Firsion. En réponse, Action contre la faim appelle l'Europe à se positionner et à incarner les valeurs du droit humanitaire international. Ces coupes de budget de l'USAID inquiètent aussi au Soudan, bientôt 2 ans que le pays est en proie à la guerre civile. Conflit qui a plongé la moitié de la population dans la famine. En ce mois de Ramadan, les denrées sont rares sur les marchés. Et lorsqu'on les trouve, c'est à des prix exorbitants. L'inflation a atteint 145% sur le mois de janvier. Plus au sud, au Soudan du Sud, toujours cette inquiétude sur les tensions dans le Haut-Nil, région du nord-est du pays. D'un côté, il y a les forces loyales au président Salva Kiir, de l'autre, celles alliées au principal opposant Riek Machar dans la milice White Army. Les deux hommes avaient signé un accord de trêve en 2018, mais depuis plusieurs semaines, les deux camps s'affrontent. Hier, la ville de Nassir était l'épicentre de ces tensions. RFI Djouba, Florence Mieto.
Des barges militaires naviguant sur la rivière Sobat depuis Malakal, la capitale du Haut-Nil, sont au cœur des tensions. Envoyées par l'armée sud-soudanaise pour officiellement permettre une rotation de ses troupes basées à Nassir, elles ont été attaquées par la White Army vendredi dans le comté de Oulang. Assaut repoussé, affirme l'armée. Jeudi, Riek Machar a sollicité une rencontre avec le président Salva Kiir afin de, je cite, « discuter de la détérioration de la situation sécuritaire ». Mais la rencontre n'a toujours pas eu lieu. Et hier samedi, le porte-parole de l'armée a lancé un ultimatum aux combattants de l'armée de Riek Machar ainsi qu'à la White Army, qu'il accuse d'avoir, je cite, « déployé des unités lourdes d'appui au combat à Nassir ». Il menace, selon ses mots, de déployer des capacités de soutien aérien supérieures et mortelles. Un porte-parole du parti de Riek Machar condamne cette guerre de propagande et nie toute implication des forces de Riek Machar dans les combats opposant l'armée sud-soudanaise à la White Army et regrette que les forces armées mais unifiée, prévue par l'accord de paix, ne puisse pas être déployée à Nassir. Florence Mieto, Djouba, RFI.
En bref, la Namibie rendait hier hommage à son premier président. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour les obsèques nationales de Sam Nujoma. L'ex-chef d'État est mort le 9 février dernier. Il avait 95 ans. Plusieurs dirigeants du continent étaient sur place hier, dont Cyril Ramaphosa et Joao Lourenço. Sam Nujoma, le fils le plus éminent de la Namibie, un géant, dit l'actuel président. C'est lui qui avait obtenu l'indépendance du pays, c'était en 1990. Hier, 1er mars, a été décrété jour férié en son honneur. Derrière les barreaux, pour avoir interviewé une voix critique du président de la République. Au Zimbabwe, l'incarcération du journaliste Blaise Mlanga fait polémique. Il est accusé d'incitation à la violence. En cause, l'interview d'un vétéran du parti au pouvoir critique d'Emmerson Mnangagwa. Joséphine Klockner, vendredi, sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée par la justice.
L'incarcération maintenue de Blaise Mlanga est dénoncée par plusieurs partis d'opposition et la société civile comme une atteinte directe à la liberté de la presse. Le journaliste travaillant pour la chaîne HSTV est accusé par les autorités zimbabwéennes d'incitation à la violence pour la diffusion d'interviews d'un vétéran du parti au pouvoir, dans lesquelles ce dernier critique ouvertement le président de la République et appelle à sa démission. Thabani Moyo, directeur national de l'Institut des médias d'Afrique australe, s'inquiète d'une criminalisation du métier de journaliste.
Nous assistons au procès des médias. La preuve, c'est que l'État a appelé comme témoin le chef de la lutte antiterroriste de la police, comme pour prétendre que le journalisme est désormais un acte terroriste, ce qui pour nous pose un problème majeur.
L'accès à l'information avait progressé après la chute du dictateur Robert Mugabe en 2017, mais la situation se détériore à nouveau depuis la réélection du président Emmerson Mnangagwa en 2023. Alors que la constitution zimbabwéenne garantit la liberté d'expression et celle des médias, des sections du code pénal sont de plus en plus fréquemment utilisées pour incriminer les journalistes comme Mlanga. Reporters sans frontières a déclaré vendredi que Mlanga avait été accusé à tort et a demandé sa libération immédiate. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
En Afrique du Sud, des centaines de personnes rassemblées hier au Cap, manifestation pour rendre hommage à Mohsin Hendricks, le premier imam gay au monde, a été tué il y a quelques semaines, assassinat qui avait choqué le pays. Cyril Ramaphosa avait alors parlé d'une attaque odieuse. À ce jour, personne n'a été arrêté dans cette affaire. 77 millions de dollars et des inspections à répétition plus tard, rien n'y fait. Le stade Baréa d'Antananarive ne répond pas aux normes des instances internationales du foot. Une inspection de la CAF, la Confédération africaine de foot, réalisée mi-février, vient de se solder par un refus d'homologation. C'est le troisième en moins de deux ans. Correspondance de Guillaume Fabry.
Madagascar ne jouera pas ses deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à domicile comme initialement prévu, mais au Maroc. Si la CAF note des améliorations au niveau de la sécurité du stade Baréa, l'état de sa pelouse laisse encore à désirer. Le secrétaire d'État chargé de cette infrastructure, Gérard Andria Manoissou, regrette une multiplication de normes selon lui trop difficile à appliquer.
C'est dur de suivre le rythme. Il faut qu'à un certain moment la CAF s'arrête. Parce qu'un pays comme Madagascar, qui a fait des efforts énormes, on a décidé de construire ce beau stade sous les normes de FIFA. Donc c'est pas logique que la CAF n'homologue pas un tel stade.
Construit en 2021 pour un coût de 77 millions de dollars, le stade a accueilli quelques matchs officiels avant qu'une bousculade ne fasse 13 morts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'Océan Indien en 2023, entraînant le retrait de l'homologation. Depuis lors, Lalaina Rakotundrazak, président d'un groupe de supporters, attend de revoir son équipe.
C'est triste. Ça fait presque deux ans qu'on n'a pas eu de match officiel au stade. Et c'est la troisième fois que le stade n'a pas été homologué par la CAF. En deux ans, si quelque chose n'a pas bougé, c'est qu'il a vraiment eu un problème. Peut-être qu'il n'est pas de la compétence, peut-être aussi qu'il n'y a pas assez de moyens financiers. On espère que le président de la République prendra les choses en main aussi.
Des techniciens de la CAF et de la FIFA sont attendus ces prochains jours à Madagascar pour aider à restaurer la pelouse avant une nouvelle inspection prévue à la fin du mois. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Un mot de cinéma et la 29e édition du FESPACO qui s'est achevée hier. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision tient son vainqueur. Le Burkinabé Danny Kouyaté repart avec l'étalon d'or de Yenanga pour son film Katanga, la danse des scorpions. C'est une première en 28 ans pour un cinéaste burkinabé. L'étalon d'argent, lui, a été décerné au Somalien Mo Araoué et celui de bronze à la Zambienne Rune Gano Nyoni. Il est 3h42 en temps universel.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.
Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, mieux adapter les traitements du cancer ou lutter contre la pollution de l'air. C'est l'objectif que se sont lancés deux entrepreneurs marocains. C'est nos têtes d'affiche du jour avec Denise Epoté. Quand la course à la superpuissance bouleverse la langue, en Chine, les nouveaux mots sont légion dans le langage courant. On en parle dans le livre international. Et puis il débarque avec sa cape rouge pour sauver le monde des griffes de Lex Luthor. On a rendez-vous avec Superman dans quelques minutes, le super-héros à l'affiche d'une exposition en ce moment en France. Mais d'abord, on part pour la Tunisie, Tunis et sa bibliothèque nationale où se tient en ce moment une exposition, le Coran vu d'ailleurs. Quatre universitaires entendent montrer l'influence du texte sacré en Europe depuis le Moyen-Âge. Dans les vitrines de la bibliothèque, des manuscrits inédits, extrêmement précieux, dont certains remontent au Xe siècle. RFI reportage, Lilia Blaise.
À la Bibliothèque nationale de Tunis, où un silence studieux règne entre les salles de lecture, remplies d'étudiants, une psalmodie du Coran résonne dans des pièces tamisées. Il faut s'approcher de près des vitrines pour distinguer les trésors qu'elles contiennent. Les manuscrits du texte saint datant pour certains de 10 siècles. Khaled Kshir est directeur de la Bibliothèque nationale.
Vous avez deux manuscrits qui sont réalisés par une famille de copistes dans les mineurs d'Andalousie, qui sont les Benoratus, et qui ont réalisé ces merveilles qui sont sur parchemin, avec des enlumineurs, malheureusement on ne peut pas tout montrer.
Dans une autre vitrine, un feuillet sur parchemin du premier Coran réalisé à Kairouan est copié par une femme.
Une ancienne esclave, et elle appelle... C'est très fin comme formule, que celui qui lit ce Coran m'envoie des prières.
D'autres ne sont présentés qu'en fac-similé. Ce sont ceux qui ont été pillés lors du sac de Tunis en 1535 par Charles Quint, une catastrophe, comme l'appelle Khaled Kshir, mais qui a eu des conséquences inattendues en Europe.
Mais la catastrophe a donné lieu à la découverte, la curiosité.
C'est cette curiosité et cette influence que quatre chercheurs ont étudiés à travers les Corans, retrouvés dans plusieurs bibliothèques d'Europe, comme l'explique Katia Boissevin, la directrice de l'Institut de recherche du Maghreb contemporain, qui a participé à l'exposition, avec l'Institut national du patrimoine en Tunisie.
Traduire le Coran au Moyen Âge et jusqu'au XVIe siècle était prioritairement une manière de connaître l'autre, mais à travers cet effort, il s'est trouvé que des amitiés sont nées, que des fascinations se sont développées et que ce jeu de rejet, admiration, fascination a toujours existé entre le christianisme et l'islam.
L'exposition itinérante s'adapte aux villes où elle est montrée, avec à chaque fois de nouvelles trouvailles, selon les fonds. Après Vienne et Tunis, elle passera par Nantes, puis Grenade, les quatre principaux centres de recherche des universitaires. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Reportage de Lilia Blaise à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. On fait le point sur les principaux titres de l'actualité internationale de ce dimanche, avec d'abord une quinzaine de dirigeants essentiellement européens attendus aujourd'hui à Londres autour de Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien est arrivé dès hier dans la capitale britannique où il a été chaleureusement accueilli par Keir Starmer. Il devrait recevoir aujourd'hui un soutien appuyé de la part de ses homologues qui ont fait le déplacement 48 heures après la violente dispute avec Donald Trump et J.D. Vance. Le bureau du Premier ministre israélien fait savoir qu'il accepte l'idée d'une prolongation de la première phase de trêve avec le Hamas. Selon ce texte proposé par l'émissaire américain, cette première phase achevée hier s'étendrait finalement jusqu'au milieu du mois d'avril prochain. Le Hamas n'a pour l'instant pas réagi à cette annonce. Le mouvement palestinien restait jusque-là ferme sur sa volonté de passer dès aujourd'hui à la deuxième phase de l'accord de trêve, phase qui doit mettre fin pour de bon à la guerre dans la bande de Gaza et au retrait des soldats israéliens. La tronçonneuse budgétaire durera des années. Les mots de Javier Milei, le président argentin, donnait hier son deuxième discours à la nation depuis son élection en décembre 2023. La tronçonneuse étant le symbole absolu de sa politique ultralibérale, il entend bien continuer de couper profondément dans les dépenses de l'État pendant la suite de ses 4 années de présidence. Et puis, week-end en or pour les amoureux du cinéma. Après les Césars avant-hier, le FESPACO, hier soir, l'étalon d'or de Yenanga rentre au pays. Il a été décerné au Burkinabé d'Annie Koyate pour Katanga, la danse des scorpions. Comme chaque dimanche, on retrouve Denis Zépoté de TV5 Monde pour ses têtes d'affiche, des entrepreneurs du continent qui rayonnent par leur créativité. Denis Zépoté est au micro de Simon Bourtembourg.
Vos têtes d'affiche, Denis Zépoté. Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Et ce dimanche, votre première tête d'affiche est originaire du Maroc. Leïla Kéré a obtenu un doctorat en physique appliquée à l'université de Besançon en France. En 2022, elle a fondé Aken Medical, une start-up qui développe une nouvelle génération de radiothérapie pour un traitement ciblé du cancer.
C'est en intégrant un laboratoire après son cursus académique que Leïla Kéré a ressenti le besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Convaincue que la technologie peut garantir des changements positifs, concrets et durables dans la lutte contre le cancer. La technologie d'Aken Medical est basée sur l'utilisation de nanosphères émettant des particules alpha. Elle brise le double brin de l'ADN et tue les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines environnantes grâce à leur grande énergie et à leur courte distance d'action. À travers ses produits, Aken Medical propose une approche singulière d'une radiothérapie efficace et personnalisée pour les tumeurs solides, tout en réduisant les effets indésirables. Associée à la théranostique, l'approche permet le suivi de l'effet de la thérapie en temps réel. Cette innovation vise à améliorer la qualité de vie des patients, une offre qui assure efficacité et moins de toxicité comparée aux méthodes actuelles. Pour le développement de sa start-up, Leïla Kéré a bénéficié du concours d'experts au sein de Paris Biotech Santé, la collaboration avec le CNRS, l'INSERM de Montpellier et le CEA Saclay. a permis d'effectuer les premiers tests de la phase préclinique. Les résultats préliminaires sont très prometteurs. La start-up prépare sa première levée de fonds avec le concours d'OncoStart.
Et pour votre seconde tête d'affiche, Denise, on reste au Maroc. Vous nous parlez d'un ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Son nom, Kailani Hassine, il a fondé Istia, une start-up pour lutter contre la pollution de l'air. Un sujet de santé publique, Denise, puisque la pollution de l'air cause plus de 8 800 000 morts prématurées chaque année.
L'idée de créer Istia est née de l'engagement de Kailani Hassine au sein d'associations écologiques. En pleine crise sanitaire, la start-up s'est fixée comme objectif de contribuer à lutter contre le Covid-19 en proposant des solutions pour mesurer et prédire la qualité de l'air tout en sensibilisant la population à cette question. Des capteurs de CO2 ont été installés dans les écoles et les établissements publics. Ces capteurs brevetés mesurent la qualité de l'air intérieur grâce à des données qui s'affichent. L'intelligence artificielle permet d'optimiser les systèmes de ventilation, de prédire les épisodes de pollution et d'indiquer un indice virus. Le succès ne s'est pas fait attendre. Avec le soutien de la région Île-de-France, Kailani Hassine a participé en 2022 au CES de Las Vegas, le plus grand rendez-vous mondial de la tech. Istia était l'unique start-up à proposer des solutions pour lutter contre la pollution de l'air et limiter la propagation des virus. Lors des JO de Paris, Kailani Hassine a participé à la conception du village des athlètes.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté, merci beaucoup et bonne journée.
RFI, Radio France Internationale.
3h51 en temps universel, combler le vide laissé par l'Amérique de Donald Trump et se rendre indispensable aux yeux du monde depuis le retour au pouvoir du républicain. La Chine ne cache pas son jeu, elle veut devenir une superpuissance globale. Sauf que dans une société millénaire, cette transformation a laissé des marques dans le langage des Chinois. Les mots nouveaux et les néologismes venus d'Internet sont légion. C'est ce que racontent les sinologues Gilles Guilleux et Lu Chi dans leur livre « Quand la Chine parle ». C'est notre livre international du jour avec Joris Silberman.
Gilles Guilleux, bonjour.
Bonjour.
Votre ouvrage est comme un dictionnaire de la société chinoise au prisme d'Internet et de ses expressions nouvelles devenues virales. Quelle est l'image qui en ressort ?
On est dans une société pleine d'humour. Plusieurs entrées témoignent de la façon dont la population s'accommode des contraintes auxquelles elle est exposée et s'accommode avec ironie. Le deuxième commentaire que je ferai, c'est finalement la capacité, malgré le renforcement du contrôle politique, malgré l'importance des contraintes, la capacité de la population à contourner ces contraintes dans la mesure du possible, à l'intérieur d'un cadre extrêmement défini. Mais dès qu'il y a une nouvelle règle, il y a une nouvelle façon de détourner la règle.
Vous l'écrivez, la Chine de Xi Jinping est à la fois une superpuissance globale et un pays parfois en pleine déprime, d'où cette expression incontournable désormais sur les réseaux sociaux chinois, rester couché, Tangping en mandarin. Qu'est-ce que ça révèle du malaise chinois ?
Moi, il me semble que Tangping, ça révèle l'épuisement des formes de mobilisation de la main-d'œuvre. On a appelé les travailleurs chinois à mobiliser leur énergie pour faire entrer la Chine dans le monde moderne au cours des dernières décennies. Et on leur a promis, on leur a assuré un certain nombre de récompenses. Je veux dire, les gens se sont beaucoup mobilisés, mais en échange de quoi, les transformations des conditions de vie ont été particulièrement spectaculaires. Eh bien, ces formes de mobilisation ne fonctionnent plus. Les générations les plus jeunes, les gens qui ont la vingtaine, s'ils travaillent d'arrache-pied à l'université, obtiennent le diplôme qu'ils souhaitent à la sortie de l'université, les salaires qu'ils espéraient ne sont pas là. Ils ne peuvent pas acheter un appartement parce que le coût de l'immobilier est vertigineux. Ils ne peuvent pas non plus faire des projets matrimoniaux. Donc, les promesses de prospérité ne sont plus tenues. Et donc, une partie de la jeunesse ne voit plus pourquoi. Elle s'épuiserait au travail, elle s'épuiserait dans la compétition pour participer à ce rêve chinois, comme la désigne le président.
Alors, on peut lire dans votre ouvrage une autre expression nouvelle, les petites roses, Xiaofenhong. Ça ne parle pas de fleurs, mais plutôt des jeunes filles nationalistes sur l'internet chinois. Elles représentent une force de frappe très puissante contre les ennemis de la Chine, mais aussi contre les multinationales lorsqu'elles les accusent d'humilier les Chinois. Alors, comment expliquer l'apparition de ces communautés d'internautes spontanées qui défendent le régime de Pékin ?
C'est-à-dire que Internet est un espace qui est fluide, flexible, où on a des techniques d'expression qui sont particulièrement ludiques. C'est-à-dire, vous détournez une image, ou vous retournez une image, ou c'est un espace qui se prête particulièrement à l'expression rapide, instantanée, éventuellement massive d'opinion. Et par ailleurs, le nationalisme est sans doute l'une des seules expressions politiques qui soit tolérée par le régime. Une partie de ces nationalistes sont des jeunes filles qui s'expriment parfois librement, parfois enrôlées par des structures du parti État derrière le mot d'ordre de défense de la nation chinoise. Occasionnellement, à cause d'un fait, etc., Xiao Fenrong appelle au boycott de telle ou telle marque étrangère. Je pense à la critique qui a été faite de certaines marques de vêtements qui dénonçaient le coton qui vient du Xinjiang, etc.
Votre ouvrage collectif parle aussi du cassage de porcelaine, prangzi en chinois. C'est, peut-on lire, un révélateur d'une crise de la moralité publique. De quoi s'agit-il ?
Oui, il s'agit des phénomènes qui voient s'affronter des personnes qui appartiennent à des générations différentes. Et il s'agit en particulier d'évoquer les gens qui portent secours à un inconnu dans la rue et qui se font ensuite poursuivre devant la justice par les personnes qu'elles ont secourues pour extorsion de fonds. C'est-à-dire que vous avez aidé quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture, et cette personne va vous accuser de l'avoir renversé, et si vous l'aidez, c'est parce que vous l'avez renversé, etc. Donc ces affaires ont été beaucoup commentées dans la presse chinoise comme signe d'un problème de moralité publique. Mais c'est aussi le signe du fait que la génération des personnes âgées qui ont des toutes petites retraites estime en fait être dans leur bon droit de chercher à soutirer de l'argent à des gens qui appartiennent à des générations plus jeunes, qui ont des niveaux de rémunération, de salaire plus élevés.
Gilles Guillot, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage « Quand la Chine parle », que vous co-dirigez avec Lou Che et qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres.
Joris Zilberman pour notre livre international sur RFI. Il s'oppose à Lex Luthor, un richissime mania de l'immobilier qui devient président des États-Unis. Superman est sans doute l'un des plus célèbres des super-héros de DC Comics. Quand il est Clark Kent, il enquête sur les puissants et traque les corrompus. Quand il est Superman, il sauve le monde, rien que ça. Superman est au cœur d'une exposition qui se tient en ce moment à Angoulême, dans le sud-ouest de la France. C'est le reportage culture du jour, signé Sophie Torlotin.
Créé en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster, Superman est le premier super-héros de l'ère moderne. Et ce personnage reflète son époque dans une Amérique en crise économique et isolationniste alors que se profile la Seconde Guerre mondiale.
Le personnage répond à une espèce d'angoisse, effectivement, de ses créateurs issus de l'immigration juive, mais aussi des gens qui sont pas issus d'un milieu très aisé.
Yann Graff, le commissaire de l'exposition.
Donc le personnage va affronter notamment dans les premiers épisodes des politiciens corrompus, des propriétaires de mines qui ne payent pas leurs ouvriers. Il prend à bras le corps en fait tous les problèmes que connaissent les grandes villes à la fin des années 30.
Ludique et immersive, cette exposition permet aux visiteurs de découvrir les mille et une vies et morts de Superman, héros très puissant venu de la planète Krypton et qui, appelé Clark Kent, devient journaliste et tombe amoureux de Lois Lane. Yann Graff met en lumière le travail d'une quarantaine d'auteurs, scénaristes et dessinateurs qui se sont succédés au cours de toutes ces décennies d'existence de Superman.
Dépassé les années 60, les gens qui reprennent Superman ont grandi avec cette icône. C'est quand même une incarnation de l'Amérique dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qui peut y avoir parfois de pire. Et vous avez des scénaristes comme Jeff Loeb et Joe Kelly, Joe Casey, qui au tournant des années 2000 ont fait une grande histoire sur Lex Luthor, l'ennemi de Superman qui devenait président. Et ça, c'est très intéressant d'avoir un héros qui affronte en fait le premier représentant de la nation dont il est issu.
C'est d'autant plus intéressant que ce Lex Luthor ressemble fort à Donald Trump. Il a fait fortune dans l'immobilier et la télé-réalité. Pour le scénariste australien Tom Taylor, le message de Superman est plus que jamais d'actualité.
C'est l'enfant d'une planète qui a disparu car ses dirigeants n'ont pas écouté les alertes des scientifiques. Ses parents ont dû prendre la décision difficile de le sauver en l'envoyant dans un vaisseau spatial pour un autre monde en espérant qu'il y soit accueilli. Donc Superman, c'est le demandeur d'asile par excellence. C'est l'individu le plus puissant de la planète Terre et il choisit d'utiliser son pouvoir pour aider les autres plutôt que dans son intérêt individuel. Donc je pense qu'il y a un message pour notre époque.
Superman, qui revient également au cinéma cette année n'en a donc pas fini de résonner avec l'actualité.
Et c'est donc avec Superman que se referme cette demi-heure d'informations africaines préparée et réalisée ce matin avec Laurent Hérault et Edouard Dupénoit. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Restez bien sur RFI, dans un peu plus de 30 secondes, un nouveau journal.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
Dans la vallée du Nil, bien avant l'apparition des trois religions monothéistes, l'excision se pratique. Appelée encore circoncision pharaonique, elle se diffuse et concerne dans beaucoup de pays africains plus de 90% des femmes. Sophie Bessis nous raconte l'histoire très ancienne de l'excision en historienne et en féministe.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.